Française, français. Belge, belge. Stéphanie Pontaine, Stéphanie Pontin. Mon président, mon chien. Ah. Mettre ou ne pas mettre, voilà la question. Madame l'ex-future présidente. Mesdames et messieurs les jurés. Public chéri, mon putain d'amour. Bonjour ma hargne, salut ma colère et mon courroux coucou. Ah certes, le cas d'Arlette Laguiller ici présente est extrêmement préoccupant.
Vous vous trompez d'affaire, monsieur le procureur.
Je sais ce que je dis, c'est préoccupant. J'entends par là que je comprends, monsieur le président, maître, mesdames et messieurs les jurés, que ce cas vous préoccupe. En revanche, en ce qui me concerne, je vous ferai la fameuse réponse de vendredi à Robinson Crusoe, qui lui demandait de faire tomber des noix de coco en remuant le tronc d'arbre. J'en ai rien à secouer, connard, c'est un bananier. Je souligne en passant qu'il était extrêmement rare à l'époque de voir un homme de couleur s'adresser sur ce ton à un navigateur britannique. Il faut savoir cependant que les relations entre Robinson et Vendredi avaient assez vite atteint un degré d'intimité qui autorisait ce genre de coup de boutoir fait à la bienséance, si j'ose m'exprimer ainsi, devant Madame Larguillet. Tandis que je parle ainsi, je vois bien que s'allume dans votre œil, monsieur le président, la flamme de l'intelligence qu'attise votre intense passion pour la vérité historique. Croyez bien que je ne suis pas insensible à votre soif de culture. À votre soif de culture, à vous, monsieur le président, mais aussi à tout le monde ici. Tout le monde, excepté, il est vrai, l'incroyable farfadet ankylosé du bavoir.
Quoi ?
Qui broute ici son ennui en agressant mollement ses parasites crâniens grâce au peigne à poux en épine dorsale de morue que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquet crado.
Et ça vous fait rire.
Eh bien, puisque vous insistez tant, mesdames et messieurs, non, n'insistez plus, vous me gênez, je m'en vais vous conter la vraie et pathétique histoire de Robinson et Vendredi. Seul sur son île depuis plus de 20 ans, Robinson s'ennuie. Sa détresse morale, sentimentale et sexuelle est immense. Pourtant, au début, il s'est farouchement accroché aux choses de l'esprit, l'esprit étant le nom de son cochon sauvage.
C'est dur.
Ne ménageant pas sa peine, il a amoureusement tissé de ses mains un porte-jartel en fibre de coco dont il a revêtu sa tortue de mer, suivant le schéma mental qu'elle a utilisé 300 ans plus tard les plus grands trouducologues américains pour réanimer les pulsions vacillantes de leurs clients. Puis Robinson a tenté de réinventer le striptease, plumant sa vieille perruche en lui chantant « Déshabillez-moi ». Déshabillez-moi, mais pas tout de suite. Mais je vous le demande, mesdames et messieurs, une vieille perruche à plumes, est-ce que ça vaut une vieille poule à poil? Non. À la fin, Robinson était tellement obsédé qu'il sautait même, j'ose à peine le dire, il sautait même des repas. Alors il a sombré dans la déprime. Et puis, miracle. Il fait un temps radieux ce 17 mai 1712 à midi, quand Robinson Crusoe arpente la face nord de son île. La mer est calme, le ciel d'un bleu limpide promène ça et là la mince écharpe de soie d'un léger cumulus. Si quelqu'un dans l'auditoire s'estime en mesure de me prouver le contraire, qu'il écrive sans plus tarder à Louis Rego, Le Courrier des Imbéciles, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e.
N'oubliez pas le timbre.
Robinson est soucieux. Son large front buriné par 20 années d'un soleil abrupt où le vent du large fait trembler ses mèches blondes de plébéien gaélique décolorées par le sel et terni par l'âpre amertume de l'iode marin. Ce large front, chargé de 20 années de souvenirs et de sombres mélancolies, se barre d'un pli soucieux qui va de là à là, voire figure 1. Qui dira la souffrance de cet homme exilé loin de sa terre anglaise, loin de sa femme anglaise, loin de sa semaine anglaise ? Loin de son assiette anglaise. Malgré la chaleur intense, il a froid, Robinson. Il a froid d'un froid intérieur qui lui vient de l'âme et qu'il ne parvient pas à vaincre, même en relevant le col de sa capote écossaise. Il est au bord du désespoir, Robinson, car maintenant, ce n'est plus seulement son front qui se barre, c'est son caleçon de laine anglaise. Son large caleçon long, Buriné par 20 années d'un soleil abrupt, où le vent du large fait trembler ses mèches blondes de plébéiens gaéliques décolorées par le sel, éternies par l'âpre amertume de l'iode marin, ce large caleçon chargé de 20 années de souvenirs et de sombres mélancolies se barre tristement et glisse sans grâce sur ses larges genoux de plébéiens gaéliques décolorés par le sel, etc. Soudain, Robinson dresse l'oreille, entre autres. Ce qu'il a entendu, il ne peut le croire. Non, non, c'est impossible, c'est fou, ce serait trop beau, trop extraordinaire. Et pourtant... Mes chers amis, je vous retrouve après une page de publicité. Merci. Merci. Mes chers amis, pour ceux qui prennent l'émission en route, je rappelle qu'il fait un temps radieux ce 17 mai 712 à midi, alors que Robinson Crusoe arpente la face nord de son île, tandis que son front et son caleçon se barrent, respectivement d'un pli soucieux et sur ses genoux, le tout extrêmement buriné. Soudain, Robinson dresse quoi ? L'oreille. Non, il ne rêve pas. Après 20 années de solitude totale sur cette île, alors qu'il n'espérait plus jamais voir un être humain, c'est bien une voix humaine qui monte vers le ciel, psalmodiant gaiement cette mélopée sauvage qui, pour Robinson à cet instant, vaut toutes les sonates de Mozart qui n'étaient d'ailleurs sûrement pas nées en 1712. Mais je m'écarte du sujet, alors que, pour reprendre les termes de M. Michel Debré, ce n'est pas en s'écartant du sujet qu'on va repeupler la France. Par-dessus l'ample rideau de liane de la forêt vierge, la voix se rapproche. À présent, Robinson en est certain. Ou bien c'est un homme, ou bien c'est un nègre. Écoutons cette mélopée. Moi, y'en a voulu à toi, ils te souviennent. Les choses où toi, y'en a mes amis. En citant la madoudou, les plus belles, ils sont derrière plus brûlants qu'aujourd'hui. Mais où bignol, ce wama, ça l'appelle. Toi, y'en a failli marcher dessus. Mais où pignol, ce wama, à l'appel. Les souvenirs et les regrets m'occupent. À cette musique divine, Robinson ne se sent plus de joie. Un immense frisson d'espoir le parcourt de là à là, voire figure 2. Il se retourne, et là, émergeant soudain entre les troncs nacrés de deux platanes, dont on est en droit de se demander ce qu'il foutait là, à 15 000 bornes d'Aix-en-Provence, apparaît, nu comme un dieu et beau comme un ver, ou le contraire, si comme vous voudrez, un être magnifique, mi-homme, mi-nègre. Sa large bouche gourmande, aux lèvres charnues, à l'ourlet délicatement boursouflé, semblant plus faite pour le baiser que pour l'arrachage des betteraves sucrières, se barre d'un pli soucieux qui va de là à là, voire figure 3. Robinson n'y tient plus. Prenant son courage et son caleçon à deux mains, si vous le voulez bien, il se précipite vers l'homme. Mais celui-ci prend peur. C'est la première fois de sa vie qu'il voit un homme blanc. Il tente de fuir vers la forêt. Mais Robinson, enfin débarrassé de ses angoisses et de ce putain de calbar, court plus vite encore. Trop affolé pour regarder où il met les pieds, l'inconnu se prend la jambe dans une liane. Il s'étale de tout son long. Complètement terrorisé, il se retourne vers son poursuivant. Mais c'est un large sourire qui vient aux lèvres de Robinson, qui s'approche du malheureux sauvage terrorisé. Et Robinson, mettant un genou en terre, se penche vers ce pauvre homme et lui dit « Vous avez votre carte de séjour ?» Tels furent, mesdames et messieurs, mes chers amis, les premiers mots de Robinson Crusoe à celui qui allait s'appeler Vendredi. Pourquoi allait-il s'appeler Vendredi ? Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Ça suffit pour aujourd'hui. Et en attendant, voici maintenant une page de publicité pour les olives au Porto et la morue fumée, la lisbonnaise.
Merci, monsieur le procureur.